Dr. Donald Fowler, contexte de l'Ancien Testament. Conférence 20, session de la Syrie. Symbole copyright 2024 de Fowler et Ted Rill de Brent. C'est le Dr. Fowler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 20, session de la Syrie. Je me souviens d'un dicton du grand entraîneur de football des Chicago Bears, Mike Ditka, qui parlait de jeter les pièces de 500 comme s'il s'agissait de plaques d'égout. J'ai en quelque sorte transformé cela en un dicton que j'utilise beaucoup. Lorsque vous traversez ces empires comme nous le faisons, ce n'est pas comme si nous le faisions à 40 000 pieds d'altitude. On dirait plutôt que nous sommes sur la Lune en regardant la Terre. C'est dire à quel point nous sommes éloignés. Mais ce que vous faites en quelque sorte dans les études sur l'Ancien Testament, c'est de parcourir des siècles. Vous jetez des siècles comme si c'était des pièces de 500. Nous parlons de siècles dont nous parlons et nous nous concentrons simplement sur quelques petites choses, ou pas quelques petites choses. Nous nous concentrons simplement sur quelque chose. Et c'est là le problème de l'Ancien Testament, ou l'un des problèmes parce qu'il couvre un très grand territoire. Mon Dieu, il est presque impossible de lui rendre justice. Et peu importe le nombre d'heures de crédit que quelqu'un m'accordait, j'en aurais théoriquement besoin de plus. Voilà donc où nous en sommes. Mais nous allons mettre fin à l'Empire assyrien dans cette vidéo et probablement commencer l'Empire néo-babylonien. Revenons donc à Sennachérib. Sennachérib a rencontré une rébellion en Occident et c'est ainsi qu'il est devenu célèbre dans les pages de la Bible à cause de cela. Ainsi, à l'ouest, il est venu vers le sud et a chassé l'usurpatrice Meredith Baladan, dont nous avions parlé. Et puis nous sommes prêts à examiner cette campagne menée à l'ouest, qui a suscité de nombreuses controverses. Et la raison en est, en partie, parce que la Bible rapporte la campagne de Sennachérib, et ensuite nous avons le récit de la campagne par Sennachérib. Ils sont un peu différents l'un de l'autre, ce qui rend difficile de savoir exactement comment relier ces deux récits de sa campagne contre Juda, le royaume du sud. Auparavant, Ézéchia avait été invité à se joindre à cette rébellion contre Sargon, mais il avait sagement refusé. Maintenant, contre le concile d'Isaïe, il rejoignit une coalition dirigée par Tyr en Égypte, qui comprenait Byblas, Arpad, Moab, Idom, Émon et Ashkelon. Eh bien, cela fait beaucoup de noms que nous avons répertoriés ici, mais seulement quelques royaumes. La plupart d'entre elles ne sont que des villes. Ce n'était donc pas une coalition particulièrement impressionnante. On ne peut s'empêcher de se demander, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Ézéchia? Les Assyriens n'avaient jamais vraiment été vaincus et, en fait, ils avaient rarement perdu une bataille. Je veux dire, ils en ont perdu, mais quand ils ont perdu une bataille, c'était remarquable, sans parler de les vaincre. Donc, à cause de cela, vous vous demandez, à quoi pensait Ézéchia? Eh bien, Ésaïe était un grand roi. Quand vous regardez la carte, vous savez, je continue de parler de l'erreur d'essayer de lire les gros titres sur la première page, mais le seul titre favorable que je peux voir est que les rois assyriens faisaient moins de campagnes militaires. Peut-être faisaient-ils moins de campagnes militaires parce qu'il y avait moins de révoltes. Mais je ne peux pas vous le dire de manière significative, je n'arrive pas à essayer de sortir quelque chose de ma tête qui expliquerait pourquoi Ézéchia se révolterait. Il a suffisamment de liberté pour qu'il aurait été bien plus intelligent d'attendre de voir si l'Empire assyrien allait s'effondrer, mais à la place, il a été tenté. Il a cédé à la tentation et s'est révolté, et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Donc, cette coalition, et en passant, elle peut paraître impressionnante quand vous avez l'Égypte à vos côtés, mais c'est exactement ce que disait Isaïe. L'Égypte est comme un roseau, vous savez, un roseau en bois pointu qui pousse dans la région du Nil. Si vous posez votre main sur le roseau et que vous vous penchez, il vous transpercera simplement la main. Ainsi, l'Égypte pourrait ressembler à quelque chose sur lequel vous pourriez vous appuyer, mais Isaïe l'a prévenu que cela ne ferait que vous transpercer, et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je suppose que ce que je peux dire à propos d'Ézéchia est ce que je peux dire à propos du reste d'entre nous. Vous pouvez être pieux et stupide. C'était une décision vraiment stupide. Alors, il se révolte, et Campadi, qui est le roi d'Écron, Écron est une de ces villes philistines, quand Padiel refuse de rejoindre la coalition, Ezechia le fait destituer. Alors, voyons si je peux arriver là où il se trouve. D'accord, voilà, Écron n'est pas sur notre carte ici, étonnamment, mais Écron serait ici dans cette zone générale comme celle-ci, et donc Ezechia essaie de forcer ce roi relativement insignifiant, il essaie de le forcer à rejoindre la coalition, et donc Potier refuse de se joindre, et donc Ezechia le fait expulser, et cela semble être l'événement qui a amené Sennachérib à l'ouest. Cependant, après la chute de Tyr, Ezechia fut presque seul à choisir la résistance. Alors, voici ce que je veux souligner, voici Tyr, et donc Tyr était l'un des participants à cette rébellion, et donc nous avons eu cette coalition. Cela me rappelle certaines cascades que nous faisions quand j'étais lycéen, et vous savez, vous et vos copains, vous allez faire des bêtises, et puis vous commencez à faire des bêtises, et puis quelque chose se passe, et vous regardez autour, et votre idée de faire des bêtises est telle que vous êtes tout seul, et tous les autres aspirants fauteurs de bêtises ont fui. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici, lorsque cette coalition commença, il y avait un certain nombre de villes, et à peine Tyr tomba tel que tout le monde se retira, sauf les Égyptiens. Eh bien, bien sûr, les Égyptiens ne sont pas les Égyptiens que nous connaissons du passé, ils ne sont pas si forts et puissants. Ainsi, en substance, Ezechia se retrouve presque immédiatement entre le marteau et l'enclume. Ainsi, il amène son armée vers l'ouest, et Ezechia était presque seul, probablement après avoir vaincu les Égyptiens dans la plaine, Sennachérib se déplaça ensuite vers l'est. Alors, voici où j'essaie de vous décrire quelque chose qui est juste un peu déroutant, mais ça se passe comme ça. Nous avons une relativement bonne idée de la manière dont il aurait déplacé son armée. Il n'aurait pas déplacé son armée de cette façon, mais il a déplacé son armée ici jusqu'à ce qu'il prenne Tyr. Mais probablement le corps principal de l'armée assyrienne, le corps principal a probablement voyagé juste comme ceci, puis s'est dirigé vers le sud comme ceci, et est ensuite arrivé juste ici. Maintenant, vous ne pouvez pas le dire sur cette carte parce qu'elle n'est pas très topographique, mais il y a une chaîne de montagnes qui s'étend exactement comme celle-ci. Et c'est donc à ce moment-là que Sennachérib, alors qu'il va vaincre ou tenter de vaincre Israël, fait un choix. Est-ce qu'il envoie son corps principal comme ça parce qu'il y a une route de crête qui va du nord au sud? Essayez de ne pas penser à l'Interstate 80, mais il existe une route de crête qui s'étend du nord au sud. Sennachérib a-t-il divisé son armée ou envoyé son armée principale de cette façon? Ou a-t-il envoyé une partie de son armée de cette façon et a-t-il envoyé son armée principale ainsi le long de la côte? Eh bien, ce que nous savons d'après les archives, c'est qu'il a mené une bataille majeure contre les Égyptiens sur la côte, à un endroit appelé El-Tik. Donc, c'était ici, et il est très probable que lorsque Sennachérib a envahi, ce qu'il a fait, c'est d'amener son armée vers le sud comme ceci, d'envoyer une partie de son armée pour assiéger Jérusalem, ici, de la placer sous son commandant, le Rabshaké, et ensuite il lui-même est allé ici avec son armée et a vaincu les Égyptiens. Eh bien, maintenant tous les membres de la coalition sont partis, et Ezechia se tient tout seul. Toute l'armée assyrienne est ici, et elle va monter ainsi vers Jérusalem. On peut arriver à Jérusalem par plusieurs chemins différents, mais si vous êtes quelque part dans cette région-ci, vous allez arriver à Jérusalem, qui est ici, en venant vers le nord comme ceci, et puis il y a une crête appelée la crête de Béoron, vers laquelle vous marcheriez ensuite, puis redescendrez à Jérusalem. Ainsi, le Rabshaké a une partie de l'armée de Sennachérib assiégeant Jérusalem, et c'est là que nous entrons dans le récit avec Ezechia au chapitre 6, verset 36. Je vais donc vous lire le récit d'Isaïe. La 14e année du roi Ezechia, Sennachérib d'Assyrie se heurta à toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. C'était anticlimatique. Il ne nous dit pas que Ezechia est responsable de cela. Il nous dit simplement qu'il est venu les saisir. Et ainsi, au verset 2, le roi d'Assyrie envoya Rabshaké de Lachish à Jérusalem vers le roi Ezechia avec une grande armée, et il se tint près du conduit de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils d'Ezéchia, qui était chef de la maison, et Shibashebna, le scribe, et Joash, fils d'Azaph, le greffier, sortirent vers eux, et Rabshaké fit alors un long discours. Ainsi, dans ce long discours, Ezéchia est à l'intérieur de Jérusalem, ici même. Le Rabshaké a une assez grande partie de l'armée là-haut avec lui, et le Rabshaké commence à parler aux et maintenant ce que nous avons est l'une des raretés les plus rares de l'Ancien Testament. Nous avons un discours prononcé par un roi étranger qui assiège Jérusalem, et nous avons le compte rendu de son discours. C'est absolument incroyable. Nous l'avons non seulement ici mais aussi dans deux rois entre 18 et 19. C'est un récit synoptique. Alors j'espère ne pas vous ennuyer, mais je vais prendre le temps de lire un petit bout de son discours. Alors, leur dit Rabshaké, et ils sont à l'intérieur, dites maintenant à Ezéchia, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance que vous avez? Je dis que vos conseils et votre force pour la guerre ne sont que des mots vides de sens. Maintenant, sur qui comptez-vous pour vous rebeller contre moi? En d'autres termes, à ce stade, Ezéchia est tout seul. Ainsi, le Rabshaké se moque de lui. Appelez tous vos alliés. Eh bien, il n'y en a pas. Ainsi, voici, vous comptez sur le bâton de ce roseau écrasé, même sur l'Égypte, sur lequel si un homme s'appuie, il entre dans sa main et la transperce. Ainsi en est-il de Pharaon, roi d'Égypte, sur qui vous comptez. Eh bien, il a déjà été vaincu. Ainsi, si vous me dites, nous avons confiance en notre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchia a enlevé les hauts lieux et les autels et a dit à Juda et à Jérusalem, vous adorerez devant cet autel. Maintenant donc, viens conclure un marché avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu trouves des gens pour les monter. Il se moque d'Ézéchia parce que l'armée assyrienne est incroyablement puissante et que Ézéchia est tout seul. Comment, alors, repoussez-vous le moindre des serviteurs de mon maître et comptez sur l'Égypte pour vos chars et vos cavaliers? Maintenant, je me suis levé sans l'approbation de Japhé contre ce pays pour le détruire. Japhé m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Bon, d'accord, laissez-moi vous dire ce qui se passe dans le passage parce que ce que c'est une affaire de propagande. Le Rabshaké se livre à de la propagande. Les gens à l'intérieur de la ville de Jérusalem, et en particulier ceux qui se trouvent sur le mur, peuvent entendre sa propagande, et ils se moquent donc d'Ezéchia au sujet de son impossible situation militaire. Pour le dire ainsi, d'après toutes les annales de guerre qu'on peut imaginer, Ezéchia n'a aucune chance. Ezéchia ne peut en aucun cas vaincre militairement les Assyriens. Ainsi, au verset 13, Rabshaké s'est levé et a crié d'une voix forte en judéen, il connaissait l'hébreu de toutes choses, et a écouté le discours blasphématoire de Rabshaké. Écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, ne te laisse pas tromper par Ezéchia, car il ne pourra pas te délivrer. Ne laissez pas non plus Ezéchia vous faire confiance en Japhé, en disant que le Seigneur nous délivrera sûrement. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ezéchia, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, et sortez vers moi, mangez chacune de sa vigne et chacun de ses figuiers, et buvez chacune de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un nouveau pays semblable à votre propre pays. Rappelons que Sennachérib a déporté 500 000 personnes. Prenez garde que Ezéchia ne vous induise en erreur en disant que le Seigneur nous délivrera. Et puis il pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre. L'un des dieux des nations a-t-il délivré son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hama et d'Arpat? Où sont les dieux de Sepharvaim? Et quand ont-ils délivré de ma main Samarie, c'est-à-dire le royaume du Nord? Lequel de tous les dieux de ces pays a délivré son pays de ma main, pour que Japhé délivre Jérusalem de ma main? Eh bien, ce que fait Sennachérib, c'est qu'il mène une propagande très puissante parce qu'il dit à Ézéchia et aux Judéens, pourquoi pensez-vous que vous avez une chance? Revenez avec moi pendant un siècle entier. Remontez un siècle et demi en arrière. Qui a jamais réussi contre nous et nos dieux? Pendant tout ce temps, un dieu a-t-il déjà délivré son peuple de nous? Ézéchia connaît la réponse à cette question. La réponse est aucune. pas un royaume, pas une ville, pas une armée, personne n'avait jamais vaincu les Assyriens. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, Achabé a gagné à Karkar. Eh bien, nous faisons une distinction entre une bataille et une guerre. Personne n'a jamais gagné une guerre contre la Syrie. Ainsi, le Rabshakeh est hors des murs pour narguer Ézéchia, et la propre folie d'Ézéchia l'a mis dans cette situation difficile. Ainsi, le texte nous dit au verset 24, à l'intérieur des murs de la ville, ils étaient tout simplement silencieux. Personne ne peut rien dire parce qu'il n'y a rien à dire. Eh bien, lorsqu'ils entrent à l'intérieur des murs de la ville, nous lisons au chapitre 37 que lorsqu'Ézéchia l'entendit, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans la maison de Japhé. Puis il envoya Eliakim, qui était chef de la maison, avec Shebna, le scribe, et les anciens des prêtres, couverts de sacs, vers Isaïe, le prophète, fils d'Amo. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchia, que ce jour est un jour de détresse, de réprimande et de rejet, car des enfants sont nés, mais la mère ne peut pas les délivrer. Peut-être que Japhé, ton Dieu, entendra les paroles de Rabshakeh, que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et qu'il réprimandera les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues. C'est pourquoi, fais une prière pour le reste qui est gauche. Les serviteurs d'Ézéchia vinrent trouver Ésaïe, et Ésaïe dit à Ézéchia, ainsi tu diras à ton maître, ainsi parle l'Éternel. C'est merveilleux, vous savez, les armées sont dehors, les blasphèmes sont profonds d'un pied, mais Isaïe dit, ainsi parle l'Éternel. Les paroles oraculaires d'un prophète. N'ayez pas peur à cause des paroles que vous avez entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie me blasphèment. Voici, je mettrai en lui un esprit pour qu'il entende une rumeur et qu'il retourne dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Eh bien, voici ce qui s'est passé alors. Suite à cet événement, pendant la nuit, le texte nous apprend que l'ange du Seigneur tua 185 000 Assyriens. Cela fait beaucoup de morts. Je vous dirai que les 185 000 ne représentent probablement pas beaucoup plus de 30 ou 40 000 soldats, et que la plus grande partie de ce nombre concerne le personnel logistique. Il est extrêmement improbable que l'armée assyrienne comptait 185 000 hommes, mais pendant la nuit, l'ange détruit à la fois l'armée et toute l'équipe de soutien logistique, et le matin, personne ne se réveille. Eh bien, juste comme ça, les Assyriens, pour la première fois, sont complètement dévastés. Et ainsi, en gardant cela à l'esprit, nous pouvons voir que Dieu a délivré sa ville, Jérusalem. Ézéchia se rendra plus tard aux Assyriens parce que Ézéchia regarde la situation politique et dit quelque chose comme ceci. Dieu a détruit l'armée ennemie, mais tout le monde sait comment sont les Assyriens, et cela peut leur prendre 3 ans, cela peut leur prendre 4 ans, mais ils vont simplement revenir, il vaut donc mieux se rendre et payer le tribut maintenant. Que de voir l'armée revenir et détruire ma ville. Ainsi, Ézéchia envoie une énorme quantité de talents d'or et d'argent. Il lui envoie toute cette liste, si vous voulez lire le document, il est à votre disposition en traduction anglaise, dans laquelle est répertoriée la liste de tout ce que Ézéchia envoie. Il envoie même en captivité, Ézéchia envoie les musiciens du temple, il envoie ses filles, il envoie certaines de ses femmes, il envoie une quantité énorme d'argent et d'or, pour que Ézéchia, en toute franchise, Ézéchia envoie le tribut qu'il aurait envoyé si la ville avait été prise. Mais ce faisant, il peut garantir sa sécurité personnelle, et pour son pays, il peut garantir que les Assyriens ne reviendront pas. En acceptant l'hommage, il ne revient pas. Alors, que devons-nous penser de toute cette histoire très intéressante à laquelle je viens de faire allusion? Eh bien, ce que nous pouvons vous dire, c'est que cela s'est produit en 701 avant J.C., et nous le savons. Isaïe a écrit, « Je mettrai en lui un esprit de rumeur, et il retournera dans son propre pays, et là il sera assassiné. » Cela a provoqué beaucoup de confusion parmi les chercheurs sur ce qui se passe car, effectivement, Sennachérib est assassiné, mais il ne l'est pas avant 689. Cela a donc conduit à l'une des questions les plus intrigantes de la période assyrienne, et la question est la suivante, « Sennachérib est-il venu une fois contre Jérusalem ?» Nous savons qu'il est venu en 701. Est-il venu une seconde fois en 689 ou 690? Eh bien, c'est peut-être sans réponse, mais c'est juste pour vous dire que quand Isaïe écrivit, je mettrai en lui un esprit de rumeur, et il retournera dans son pays, il a fallu encore 11 ans, 12 ans de plus avant que Sennachérib ne soit effectivement exécuté. Cela a amené les gens à penser qu'il y avait peut-être 2 campagnes de Sennachérib et pas une seule. Ainsi, Sennachérib retourne à Babylone et est finalement exécuté. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire sur ce qui s'est passé ici et qui, à mon avis, sont dignes de mention. La première est que Dieu délivre Jérusalem de l'ennemi. La ville est assiégée, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'espoir, mais Dieu délivre la ville, et nous posons la question, pourquoi fait-il cela? Il ne l'a pas fait avant, et il ne le fait pas plus tard, alors pourquoi le fait-il ici? Eh bien, j'ai entendu en chair que cela avait à voir avec la prière d'Ézéchia, que Ézéchia était un homme juste. Eh bien, il était peut-être insensé, mais c'était un homme juste. Mais en réalité, je pense que le texte est assez clair, Dieu a délivré Jérusalem à cause des déclarations sacrilèges, provocatrices et propagandistes du Rabshakeh. Dieu n'a pas délivré Jérusalem parce que Ézéchia était si juste. Il n'a pas délivré Jérusalem parce que Dieu ne pouvait pas faire tomber Jérusalem, et ne pouvait pas se résoudre à laisser tomber Jérusalem. Il n'a pas livré Jérusalem de manière paradigmatique afin de pouvoir envoyer à toutes les générations suivantes le message selon lequel si vous avez la foi, c'est ce que Dieu fera. Il a envoyé le message au plus grand empire du monde, lorsque vous blasphémez contre le Dieu d'Israël a le pouvoir de vous détruire. Malheureusement, cela semble avoir conduit à une théologie catastrophiquement mauvaise, appelée théologie de Sion. Nous connaissons la théologie de Sion. Cela s'incarne dans les phrases que nous lisons dans des livres comme Michée et plus tard dans la période babylonienne. La théologie de Sion repose sur le principe que Jérusalem est la demeure de Jahvé et qu'il ne laissera jamais Jérusalem tomber aux mains d'un ennemi. La théologie de Sion est devenue une partie intégrante de la religion judéenne, et je pense que c'est parce qu'elle a été mal interprétée. C'est-à-dire, ils semblent être arrivés à la conclusion que puisque Jahvé avait empêché Jérusalem de tomber cette fois-ci, alors Jahvé allait faire de même en faveur de Jérusalem à tout moment. Ils avaient une théologie qui soutenait cela. C'est la demeure du Seigneur. C'est l'endroit où se trouve le temple. C'est l'endroit où se trouve l'arche, par conséquent, elle ne peut jamais tomber ni être détruite. Peut-être que cela faisait partie du problème d'Ézéchia. Peut-être que Ézéchia était sous l'influence de l'idée qu'il avait été fidèle au Seigneur et que le Seigneur devrait lui être fidèle. Mais en fait, la théologie de Sion était un cancer qui rongeait la réalité de la présence de Dieu avec eux jusqu'à la chute même de Jérusalem, car à une date beaucoup plus tardive, dans la période néo-babylonienne, ils se révolteraient à nouveau dans des circonstances cela rappelle étrangement ici, pensant qu'en se révoltant, ils forceraient la main de Dieu pour les délivrer à l'époque néo-babylonienne de la même manière qu'il l'a fait ici. Ainsi, cette histoire très puissante et importante d'Ésaïe 2 rois entre 18 et 19 nous rappelle que la présence d'Israël dans le pays peut prendre fin. En fait, lorsque vous revenez au Deutéronome et que vous lisez les malédictions, Dieu dit sans détour dans ses malédictions du Deutéronome et du Lévitique, il dit sans détour « Je vous expulserai de votre pays si vous désobéissez ». Donc, cette histoire, qui est un peu déroutante parce que nous ne pouvons pas facilement en recréer la chronologie et des choses comme ça, cette histoire est une histoire pour montrer aux Assyriens et aux autres lecteurs ultérieurs que le Dieu d'Israël est en réalité le Dieu qui est en charge et qu'Israël ne fait que ce que Dieu, excusez-moi, l'Assyrie ne fait que ce que le Dieu d'Israël lui permet de faire. Isaïe écrit au nom de Dieu, l'Assyrie est mon bâton. Cela signifie que Dieu essaie d'enseigner au monde que l'Assyrie est peut-être la première hyperpuissance du monde, mais qu'elle appartient à l'autorité et à la puissance du Dieu d'Israël. Quant à Ézéchia, il est malheureusement à la fois un roi pieux et un roi qui veut contrôler les affaires de l'État. Voici donc ce qui est arrivé à la suite de sa rébellion contre les Assyriens. Il a perdu toutes ces choses dont je t'ai parlé et que tu peux aller lire. Il en perdit également 46, Sennachérib nous dit qu'il captura 46 villes fortifiées. Cela représente beaucoup de villes de Judée que Ézéchia a perdu, 46 villes fortifiées. Sennachérib nous raconte qu'il a emmené en captivité 200 000 Judéens. Donc, ce que cela signifiait, c'est cela dans la pratique. Ainsi, la zone violette sur la carte est la Judée. Ce que cela signifiait était le résultat de l'invasion de Sennachérib à cause de la folie d'Ézéchia, qui était probablement la moitié de la taille suite à ce choix catastrophique. Plus tard, Ézéchia commet une autre indiscrétion spirituelle parce que le roi de Babylone envoie des émissaires à Ézéchia. Nous en parlerons dans le chapitre suivant. Ézéchia se rend au temple de Jérusalem, ouvre le temple et montre les émissaires de Merodach-Baladan. Il leur montre la richesse du temple. Il est presque certain que Ézéchia essayait de forger une autre alliance. Cette fois avec les Babyloniens. Et bien sûr, Ézéchia est également jugé pour cela. Donc, je sais que cela semble facile à dire et simple à dire, mais je vous rappelle que Dieu les a avertis qu'un roi comme toutes les autres nations autour de vous signifie que le roi ne doit pas être internationaliste. À deux reprises, Ézéchia a formé des alliances ou tenté de former des alliances. Les deux fois, ce fut une catastrophe. Le roi ne doit pas être militariste. Autrement dit, il ne doit pas compter sur les armées pour mener ses batailles. Ainsi, Ézéchia, malheureusement, malgré toute son orthodoxie, malgré toute sa piété, Ézéchia fonctionne trop comme un roi, comme toutes les autres nations. Très bien, donc une dernière chose avant de laisser tomber, car nous avons un récit très intéressant concernant la chute de la ville de Lachish. Si vous voyez où pointe mon curseur, nous sommes à un endroit appelé Maresa, et c'est également la zone où se trouve la ville de Lachish. Lachish, à cette époque d'Ézéchia, est la ville la plus importante de Jérusalem. Lachish garde la plaine côtière, et cela rend Ézéchia puissant car il peut interdire, Lachish peut interdire la circulation le long de cette route, il peut garantir des revenus au roi. Lachish est actuellement la plus grande ville de Jérusalem. Naturellement, Ézéchia a assiégé Lachish, et nous avons donc ici une image montrant le siège de Lachish. Je ne suis pas sûr de ce que votre œil peut capter, mais ceci n'est qu'un segment du soulagement de la bataille. Sennachérib a enregistré cela dans son palais en Assyrie. Voici une tour crénelée de Judée. Au sommet de la tour, on voit un archer judéen tiré. On les voit lancer des objets étranges qui ressemblent un peu à une cigarette ou quelque chose comme ça. Ce sont en fait des morceaux de tiges liées et des objets combustibles qu'ils jettent ici parce que c'est l'engin de siège. Ils essaient de pénétrer dans les murs de Lachish. Voici donc l'engin de siège assyrien. Pouvez-vous voir à quoi ça ressemble? Voici le bélier. Le bélier attaque la tour de bataille. Ils essaient de brûler l'engin de siège. Voici les femmes judéennes qui partent en captivité. Ceci est tiré du palais de Sennachérib, qui célébrait la prise de Lachish. Nous avons donc cette image qui illustre ce point. Ézéchia a perdu la ville la plus importante de son empire au profit des Assyriens. Ainsi, tout bien considéré, un roi qui reçoit une main moyennement forte lorsqu'il accède au trône se retrouve avec une main grandement affaiblie en raison de sa violation des commandements que Dieu a donnés concernant le fait de ne pas conclure d'alliances internationales. Quant à Sennachérib, en 689 il est assassiné. Il est assassiné par deux fils qui conspirent contre lui et veulent devenir eux-mêmes rois. Ainsi, mes amis, lorsque vous voyez des royaumes, lorsque vous voyez des rois destitués par assassinat, alors vous regardez un empire ou un royaume qui a des problèmes. Il ne faudra pas beaucoup plus longtemps avant la fin du royaume assyrien. Cela nous amènera donc à Esaradon. Sennachérib est assassiné par ses fils. Et Esaradon sera le fils qui deviendra roi, mais il n'est pas l'héritier présumé. C'est en fait le fils fidèle. Il accède au trône après avoir été exilé. Apparemment, son premier acte fut de reconstruire Babylone. Les frères d'Esaradon, qui sont plus âgés et veulent devenir rois, l'ont contraint à l'exil. Après avoir assassiné leur père, Esaradon sort d'exil, réussit à vaincre et à tuer ses deux fils, devrais-je dire ses deux frères, et s'empare du trône d'Assyrie. Au cours de sa septième année, il tente d'envahir l'Égypte, mais sans succès. Un Nubien omniprésent signifie, bien sûr, que Tiriakan était celui d'un pharaon égyptien noir venant de l'extrême sud de l'Égypte. La Tiriakan est omniprésente. Il sera une épine dans le pied des Égyptiens pendant un certain temps. Cependant, au cours de sa 10e année, il revint et conquit Memphis. Plusieurs années plus tard, il tenta de revenir alors que Tyriacan fomentait la rébellion, mais mourut en chemin. Voici donc ce que nous pouvons lire. Je ne suis pas sûr que nous puissions le voir. Voici l'extension des Sarhaddon. Et ce que cela signifie, c'est que ce bleu clair est le territoire que Sarhaddon a conquis. Il réussit à conquérir le nord de l'Égypte, ou en langue égyptienne, la basse Égypte puisque le Nil coule vers le nord. Ainsi, il réussit à capturer Memphis. Et à toute fin pratique, regardez le ballon. Le ballon semble devenir de plus en plus gros. En fait, lorsque vous regardez tout cela, vous pensez que rien ne pourra jamais arrêter ce cauchemar de l'existence humaine alors que l'Empire continue simplement de s'agrandir de plus en plus. Ainsi, Sarhaddon ne règne pas longtemps. Voici un petit exemple vous montrant comment ils ont déplacé ces lourds morceaux de roche qui constituaient leur monde. Ils ont développé un système de poulies et les ont enroulés autour de ces gigantesques blocs, ou dans ce cas, d'un taureau ailé. Et ils pourraient déplacer ces objets gigantesques et très lourds à travers des blocs et des tacles, les déplacer et créer de grandes structures. Il y a beaucoup de mythologie que je lis lorsque j'entends parler de la construction des pyramides. Les gens parlent des pyramides parce que les pierres étaient tellement grosses. Ils ont dû recevoir de l'aide de l'espace. Nous ne sommes donc pas si loin des pyramides, mais comme je vous le montre, ce n'est peut-être pas l'espace. C'est juste du blocage et du plaquage. Mais ils pouvaient déplacer de très gros objets, y compris ces très gros blocs que vous voyez ici, qui ont également été déplacés. Ainsi, les anciens étaient très ingénieux pour faire en sorte que leur monde fonctionne pour eux. Eh bien, nous y sommes. Le dernier grand roi assyrien, Ashurbanipal. Comme vous pouvez le constater, son règne est long. Il règne de 668 à 627. Il a un long règne et il semble avoir réussi car quand vous regardez la carte, il semble que rien ne mettra jamais fin à ce cauchemar. Regardez le bleu foncé. Il y a un débat quant à savoir si Ashurbanipal a ajouté Ilum ou si Sarhaddon l'a fait. Je préfère affirmer que Ashurbanipal a ajouté Ilum à son empire, mais remarquez que Elam a été ajouté, puis l'Égypte. Je l'ai mal fait. Excusez-moi, j'avais oublié ça. Revenons ici et jetons un œil. Il ajouta l'Égypte à l'empire. Et donc maintenant, si je pouvais juste dire, pour le plaisir du drame, voici le dernier grand roi assyrien. Le cauchemar continue. On dirait que ça ne peut jamais finir. Et regardez ce qui se passe. Dans le dernier grand roi assyrien, l'empire est à son apogée, le dernier plus grand. Ilum, qui est le plus ancien empire survivant, est ajouté à l'empire assyrien. Il perd son indépendance. L'Égypte, l'empire le plus ancien de toute l'Antiquité, a duré près de 3000 ans. L'Égypte est désormais ajoutée à l'empire. Regarde la carte. Non seulement tout le croissant fertile et l'Anatolie, mais aussi toute l'Égypte. Le ballon a une actualité. Le ballon a atteint sa plus grande extension. Dans un laps de temps relativement court, le ballon va exploser. Et puis, en une décennie, tout a disparu. Ce monolithe, cet horrible conglomérat de violence et de paganisme, disparaîtra si soudainement qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous examinerons donc le règne d'Assurbanipal. Il est le dernier grand roi assyrien et nous examinerons donc son règne. Il a formé 9 militaires d'ailleurs, dans Esdras 4, 10, il est appelé Osnapar. Peux-tu voir ceci? C'est un mot plutôt amusant en anglais, mais cela nous rappelle que ces noms n'étaient pas toujours faciles à transférer dans la langue maternelle. Ainsi, par exemple, les Grecs ont imaginé Sardanapolis pour Assurbanipal. Donc, c'est presque assez drôle. Durant son règne, il fit 9 campagnes militaires, dont la première contre l'Égypte. Tyriacan avait de nouveau repris Memphis, alors Ashurbanipal a envahi et vaincu Tyriacan, qui est apparemment mort peu de temps après. Ainsi, Tyriacan était un roi nubien très efficace qui s'était fait installer sur le trône d'Égypte. Il y a 100 ans, certaines personnes pensaient que les Noirs n'étaient pas assez intelligents pour faire de telles choses. Quelqu'un a oublié de le dire à Tyriacan. Il a réussi à être une épine majeure dans le pied des Assyriens et était un homme d'un certain courage. Cependant, son successeur, Tanuhamin, s'est également opposé à l'Assyrie. Ainsi, Assurbanipal rassemble désormais une immense armée. Il envahit l'Égypte. Il a repris Memphis, mais il a poussé en amont et a capturé l'ancienne ville historique de Thèbes. Ceci était prévu dans le livre de Néhérum pour servir d'avertissement à Jude. Si Amon ou Thèbes ne peuvent pas tomber, vous aussi pouvez tomber. Plus tard, la 20e dynastie commence en Égypte et ses mythes expulsent les Assyriens. Pendant ce temps, à Babylone, le frère d'Assurbanipal, Shamash-shum-ukin, tenta de briser le règne de son frère Ashurbanipal. Il voulait la liberté. Il voulait être son propre roi. Ainsi, il apportait déjà un soutien passif à ce Miticu, puis se révolta ouvertement. Ainsi, dans les années 651 à 48, Assurbanipal assiège, ou du moins Babylone est-elle assiégée, puis Babylone tombe et Shamash-shum-ukin est tué, et cela ressemble encore à une autre victoire pour les Assyriens. Il semble aux yeux du monde entier que cela ne finira jamais. En 645, il conquiert Élim et met à sac Suse, mettant ainsi fin à l'un des plus anciens pays du monde. Selon toute apparence, en 645, l'Assyrie est à sa plus grande puissance. Or, tel n'est pas le cas. Maintenant, avant de parler de la chute de l'Assyrie, permettez-moi de vous dire que la plus grande contribution de ce roi, ironiquement, et je pense que c'est l'une des ironies les plus étonnantes de toute l'histoire ancienne, est que la plus grande contribution de ce roi à l'humanité et l'histoire n'était certainement pas son empire, mais sa bibliothèque. En d'autres termes, Ashurbanipal était un antiquaire. C'était un roi qui savait lire et écrire et il aimait découvrir l'incroyable histoire de la Mésopotamie. Il était parfaitement conscient que la Mésopotamie avait une histoire remontant à des milliers d'années et elle s'y intéressait. Il n'avait pas le luxe de n'avoir aucun adversaire redoutable, il pouvait donc se concentrer sur sa bibliothèque. Bien sûr, ce n'est pas une bibliothèque comme nous le connaissons. Il s'agit d'une bibliothèque de tablettes d'argile. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a chargé, peut-être en tant que premier archéologue, il a chargé des équipes de travailleurs d'aller dans les villes importantes qui n'étaient plus utilisées, et il creusait, il trouvait les bibliothèques anciennes, et il les déterrait, puis il rapportait les tablettes à la bibliothèque d'Assurbanipal, puis il les traduisait en néo-assyrien. Vous voyez, en d'autres termes, les tablettes seraient écrites en sumérien, ou en akkadien, mais ce sont des langues qui ne peuvent plus être lues par les gens. Il a donc envoyé ses équipes chercher les tablettes pour les faire traduire par ses professionnels en documents néo-assyriens afin que lorsque nous parlions plutôt de l'épopée de Gilgamesh, nous ne parlions pas de l'épopée de Gilgamesh écrite en akkadien ou écrite en ancien babylonien. L'épopée de Gilgamesh que nous lisions est le récit néo-assyrien. Il a été traduit en néo-assyrien par les érudits d'Assurbanipal, et c'est sur cette base que nous travaillons. Donc, à mon avis, c'est presque une ironie qui nous fait sourire lorsque nous lisons sur ces Assyriens qui étaient si absolument brutaux, et pourtant c'est le règne d'Assurbanipal qui a conduit à la première grande bibliothèque du monde et nous a remis des documents que nous n'aurions peut-être jamais eu s'il ne nous les avait pas laissés. Quelle ironie, n'est-ce pas, que ces peuples qui ont tant détruit, assassiné tant de personnes, torturé tant de personnes, quelle ironie que Assurbanipal laisse au monde un trésor plus grand que tout l'or de l'Assyrie parce qu'il a laissé sa connaissance du monde. Qui aurait imaginé que ce serait l'œuvre du dernier grand roi assyrien? Eh bien, voici notre situation. Nous n'avons presque plus de temps aujourd'hui. Après 639, les archives prennent fin et nous ne pouvons donc vraiment pas recréer les années de la fin de l'Empire assyrien. Un certain nombre de rois obscurs sont répertoriés dans la liste des rois assyriens, bien qu'il y ait probablement eu des conflits internes, voire une guerre civile. Cependant, nous ne pouvons tout simplement pas recréer les événements des 20 dernières années de l'Empire assyrien. En 614, Cyaxares, un roi perse, roi de Médie, s'empara de la capitale assyrienne d'Ashur. En 612, la grande ville de Ninive tomba aux mains des Mèdes lorsque les forces de Nabopolassar, roi de Babylone, arrivèrent trop tard à la bataille. Quelques forces se sont enfuies vers l'ouest jusqu'à Rehren, dont vous vous souvenez peut-être lors de notre discussion sur le nord d'Ur, et là, elles ont tenté de fonder une nouvelle dynastie avec l'aide égyptienne à Rehren. En 609, l'Assyrie disparaîtrait à jamais, preuve de la haine qu'elle avait inspirée dans tout le monde antique. Ainsi, en quelques années seulement, l'empire vieux de 300 ans est exterminé. Plus jamais les villes d'Assyrie ne seront occupées par les Assyriens, et l'Assyrie sera perdue et perdue à jamais alors que les Bébayloniens prendront enfin leur revanche et que les Bébayloniens auront enfin leur propre empire. Cela fait longtemps depuis Hammurabi. Cela ne prend qu'environ un millénaire, et les Bébayloniens ont leur dernier empire, et c'est par cela que nous commencerons dans notre prochaine cassette, qui porte sur l'empire néo-bébaylonien, rendu célèbre par Nabuchodonosor. J'espère que vous l'attendrez avec impatience avec nous. Nous sommes presque à la fin du cours. Alors, encore une fois, je vous remercie de votre attention. C'est le docteur Dofauler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 20, session de l'Assyrie.